Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Média. C'est aujourd'hui la 800e de l'émission et on est ravis. 800e ou pas, le menu n'a pas changé, média et culture au sens large, pendant 2 heures en direct pour évidemment podcaster l'émission ou la partie de l'émission qui vous manque sur europe1.fr. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a un sacré programme. Notre infomédia du jour va décortiquer la série documentaire qui cartonne en ce moment sur Netflix, MH370, l'avion disparu, qui revient sur la disparition, jamais résolue, du Boeing de la Malaysian Airlines. C'était en mars 2014. Déjà 60 millions de vues dans le monde, mais la série est accusée de verser dans le complotisme par de nombreux experts aéronautiques. Gilles Diars, l'un d'entre eux, viendra nous dire ce qu'il reproche à ce documentaire qu'il qualifie de catastrophe journalistique. Nos invités ensuite, Guy Lagache, qui revient à la télé pour un documentaire passionnant sur Ushuaïa TV. Il est parti au cœur de la forêt tropicale du Congo, deuxième poumon de la planète après l'Amazonie, qui ne fait pas les gros titres et pourtant tout aussi menacé par la déforestation. Enfin, la comédienne qui monte, Rebecca Marder. Elle incarnait la jeune Simone Veil dans Simone. Elle est dans Le Dernier Ozon et la voici dans un film très ambitieux et unique, à la fois un thriller et une réflexion politique. Ça s'appelle De Grandes Espérances, avec Benjamin Laverne et Emmanuel Berco. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Rémi Jacob.
Bonjour Philippe et Anissa, bonjour,
bonjour
à tous.
Bonjour Rémi.
Rémi, au sommaire de votre journal des médias.
La libération du journaliste Olivier Dubois avec le témoignage de son meilleur ami dans un instant sur Europe 1. Également du Rififi au canard enchaîné. Et puis les secrets de tournage de Koh-Lanta dévoilés par une candidate. On l'entendra à la fin de ce journal.
Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le podium.
Et c'est TF1 qui est en première position avec Comme mon fils, 3,7 millions de téléspectateurs, soit 20,4% du public pour ce téléfilm porté par Thomas Sisley. On vous en parlait hier ici même. Derrière, on retrouve France 2 avec Meurtre au paradis, 4,2 millions de téléspectateurs, soit 16% de part d'audience pour la série policière franco-britannique. Enfin, M6 clôture ce podium avec Marié au premier regard. C'était, vous le savez, hier, le lancement de la 7e saison. Vous receviez hier, d'ailleurs, Philippe, sur votre plateau, le nouveau venu, le sexologue Gilbert Boujaoudé.
Ouais.
Et 2,1 millions de téléspectateurs, soit 10,1% de part d'audience, était au rendez-vous et c'est un petit peu moins que le lancement de la précédente saison.
Europe 1, le journal des médias.
On démarre ce journal avec la libération du journaliste français Olivier Dubois qui était otage au Mali depuis près de 2 ans.
Un grand ouf de soulagement, on vous en parle depuis hier après-midi sur Europe 1. Le journaliste a été libéré après 711 jours de captivité. Il avait été kidnappé en avril 2021 dans le nord du Mali par une organisation terroriste liée à Al-Qaïda. Alors j'ai pu joindre hier en début de soirée Marc Debony, c'est le porte-parole du comité de soutien pour la libération d'Olivier Dubois. Et c'est surtout son meilleur ami, son frère adoptif, comme il l'appelle. Il nous dévoile sa réaction quand il a appris l'heureuse nouvelle.
Spontanément, j'ai été méfiant parce que ça fait tellement longtemps qu'on est en mode totalement blindé et qu'il faut surtout garder la tête froide. Et après, j'ai pleuré pendant une bonne heure comme une madeleine. C'est une immense joie. Je repense très fort au fils d'Olivier, Saël, qui est un magnifique petit garçon et qui, il y a de ça un an et demi, m'a fait faire la promesse que j'allais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour faire revenir son papa. Et je me souviens d'avoir fait cette promesse, le cœur serré, parce que j'avais aucune garantie de pouvoir la tenir. Et je suis vraiment infiniment heureux et soulagé que cette promesse-là ne soit pas trahie.
Marc Debony, le meilleur ami d'Olivier Dubois, au micro d'Europe 1 Culture Média, qui m'expliquait également que ce petit garçon de 6 ans l'appelait le chef des gens qui cherchent son papa. Très jolie formule. Et tout au long de ces 2 années, son comité de soutien aura multiplié les actions pour faire parler le plus possible de la détention d'Olivier Dubois.
Emmanuel Macron va s'exprimer demain à l'heure du déjeuner. Ce sera en simultané dans les JT de 13h de TF1 et de France 2.
Oui, on l'a appris ce matin. Romain Nocquet vous en parlait il y a quelques instants sur Europe 1. Dans son journal de 9h, le président répondra aux questions de Marie-Sophie Lacaro et Julien Bugier. Les deux chaînes précisent que l'entretien sera réalisé en direct depuis le palais de l'Élysée. Et on scrutera évidemment de près les audiences jeudi matin. La dernière interview d'Emmanuel Macron remonte à décembre dernier. C'était face à Anne-Claire Coudray au 13h de TF1 avec plus de 5 millions de téléspectateurs à la clé.
Du rififi au canard enchaîné.
Ah oui, rien ne va plus depuis la publication du livre de Christophe Nobili. C'est l'un des journalistes de l'hebdomadaire satirique. Bruno Donnet vous en parlait la semaine dernière dans ses télescopages. Dans cet ouvrage est notamment révélé l'existence d'un emploi présumé fictif au sein même du canard enchaîné. En guise de réponse, les deux rédacteurs en chef ont publié mercredi dernier un article dans lequel ils tirent à boulet rouge sur leur collègue, le qualifiant, je cite, de fourbe et l'accusant de vouloir mettre à mal le journal. Ce sont leurs mots. Hier, Télérama a dévoilé que ce papier n'est pas du tout passé en interne. Selon nos confrères, une vingtaine de salariés ont signifié dans un texte interne qu'ils désapprouvaient la méthode de leur rédacteur en chef. Ils estiment que cet article, je cite, rabaisse le journal par son ton vindicatif, avant d'ajouter « Rien ne nous semble pouvoir justifier la publication de cette réponse en forme de règlement de compte ». Fin de citation.
Télévision avec un documentaire de TMC qui revient sur les 10 ans du mariage pour tous.
Oui, ça sera diffusé ce soir en prime time dans l'émission 21h Média. C'est présenté par Julien Belvert. Le chroniqueur de Quotidien revient dans ce nouveau numéro sur le long chemin parcouru avant que la France ne devienne le 14e pays au monde à autoriser le mariage homosexuel. C'était le 17 mai 2013. Au menu, de nombreux témoignages, dont celui du président de la République de l'époque, François Hollande, mais également les confidences de celles et ceux pour qui cette loi a changé la vie. C'est le cas de l'animateur Christophe Beaugrand. Il explique dans ce documentaire pourquoi il a choisi de publier dans la presse les photos de son mariage. C'était dans le magazine Gala. Et le choix du titre, vous allez l'entendre, n'était pas anodin.
J'avais envie de partager ces images, je vais mettre des guillemets évidemment, mais ces images normales dans un magazine qui est lu par un public très large, par les mamies qui vivent à la campagne, des magazines qui traînent par exemple dans le salon de coiffure ou la salle d'attente du docteur. Alors à l'époque, on m'a posé des questions, on m'a dit mais c'est bizarre, il y a des gens qui m'ont dit mais comment ça se fait, pourquoi vous avez besoin de vous exhiber. Jamais on n'aurait posé la question à un présentateur hétéro qui présenterait sa femme dans un article pour un mariage ou ce genre de choses.
Christophe Beaugrand, l'un des témoins de ce documentaire, a retrouvé ce soir dans l'émission 21h Média. Émission qui débutera alors non pas à 21h mais à 21h15, soyons précis, sur TMC.
TF1 diffuse ce soir un nouvel épisode de Koh-Lanta et sur les réseaux sociaux, une candidate a dévoilé quelques secrets de tournage. Générique.
24e édition pour le jeu d'aventure présenté par Denis Brognard. Ça a débuté le mois dernier. Parmi les candidats, une certaine Elena. Elle est belge, elle a 27 ans et elle a un caractère très très fort. Ceux qui suivent le programme s'en sont rendus compte. Elle n'hésite d'ailleurs pas sur les réseaux sociaux à raconter toutes les coulisses de l'émission. Elle s'est livrée sur son compte Instagram un petit jeu de questions-réponses avec ses abonnés. À commencer par cette question qui revient très très souvent. Comment les candidats font-ils quand ils veulent aller aux toilettes?
Alors non, il n'y a pas des toilettes sur le camp. C'est pipi, caca nature, donc soit la mer, soit la plage. Mais en tout cas, on avait juste décidé d'un endroit où tout le monde allait faire ses besoins au même endroit. C'était tout au bout, à droite, il y avait un petit renfoncement et on s'est dit, ok, tout le monde va faire ses besoins là. Petite précision les amis, vu qu'on mange rien ou extrêmement peu, ne pensez pas qu'on va aux toilettes tous les jours. C'est très 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 espacé.
Voilà pour les toilettes. La jeune femme qui s'est également livrée sur la question des protections hygiéniques et de l'épilation. Il n'y a aucune raison que ça soit tabou, estime-t-elle. Et d'ailleurs, tout est prévu par la production.
Alors, c'est une émission de survie, ok, mais quand même, ils nous donnent des protections hygiéniques. Donc, on n'a pas de PQ, on n'a rien de tout ça, mais on a juste quand même des protections hygiéniques. Question qui me revient beaucoup, c'est comment est-ce que vous faites on ne voit pas vos poils. Alors, je vous dis juste un truc, Koh-Lanta, c'est pas Poilland. La caméra ne vise pas nos jambes, ne vise pas nos aisselles. C'est pas le but à la base qu'on voit nos poils un peu partout. Donc, si quelqu'un fait « Ouais, j'ai gagné », la caméra va pas aller en dessous de nos aisselles.
Elena, un très cash, très direct, qui explique aussi que cette aventure n'est pas franchement propice au rapprochement amoureux. Il n'y a aucune libido sur le camp.
Tu m'étonnes.
C'est vrai que ça ne donne pas forcément envie. Et vous pouvez, Elena, la retrouver ce soir dans ce nouvel épisode de Koh-Lanta. C'est en prime time et c'est sur TF1.
Merci beaucoup Rémi, la culture, tribu de Culture Média, votée à l'unanimité. Vous serez de retour demain à 9h05 sur Europe 1 et la sentence est irrévocable.
Merci.
À demain pour un nouveau journal des médias.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel.
Un avion, ça décolle. Planes. Et ça atterrit. What planes? En revanche, un avion ne peut pas disparaître de la surface de la Terre. Qu'allait-on dire aux membres des familles? Et que fallait-il dire aux médias?
C'est un carton mondial et pour certains un crash journalistique. MH370, l'avion disparu. La nouvelle série documentaire de Netflix revient sur la disparition du Boeing de la Malaysia Airlines le 8 mars 2014. À son bord, 239 personnes. L'avion parti de Kuala Lumpur en direction de Pékin n'est jamais arrivé à destination et il n'a jamais été retrouvé. Le documentaire de Netflix tente de percer le mystère avec plusieurs témoignages d'experts qui avancent des théories dignes de films d'espionnage et ça cartonne dans le monde entier. Déjà plus de 60 millions d'heures de visionnage sur la plateforme et ce n'est pas fini. Mais depuis quelques jours, une polémique enfle. La série est accusée de verser dans des hypothèses sensationnelles, de mettre sur le même plan le possible et l'improbable, de sacrifier la rigueur de l'enquête au récit aguicheur et de verser parfois dans le complotisme. Les experts du secteur de l'aéronautique sont nombreux à s'indigner et à tenter de démonter certains mythes. Bonjour Héloïse Gouard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes notre expert en série, vous n'y connaissez rien en aéronautique, non. Mais vous nous direz quelles sont les recettes du succès de cette série. Avec nous, Gilles Diars, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en aéronautique, vous y connaissez vraiment, ancien contrôleur dans l'armée de l'air pendant 17 ans et spécialiste des interceptions, ce n'est pas rien. Vous êtes également l'auteur de ce livre, Le mystère du vol MH370, autopsie d'une disparition. Merci d'être avec nous au micro d'Europe 1. Si vous deviez résumer votre impression en voyant le documentaire en deux mots.
En deux mots, c'est une catastrophe journalistique, tout simplement.
On va la détailler point par point, cette catastrophe. Héloïse Gouard, on va d'abord revenir sur le produit série documentaire. Comment expliquer ce succès mondial sur Netflix?
Déjà, c'est une histoire qui fascine. C'est un peu comme l'histoire, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Le mystère n'est pas résolu et du coup, ça intrigue les gens. Ça reste très présent dans l'imaginaire collectif du monde entier. Et puis, le MH370, cette disparition, ça reste aujourd'hui le plus grand mystère de l'aviation civil, ça rend le doc bankable. Et puis sur le plan du format, il faut dire que tous les ingrédients sont réunis pour que ça fonctionne, pour qu'on accroche. Ça se regarde d'une traite. En fait, le doc, il joue avec les ficelles d'une grosse série d'actions, du scénario d'une série d'actions. Il y a par exemple un compte à rebours, un peu comme dans 24 heures chrono, J+1 depuis la disparition de l'avion, 2 mois après la disparition de l'avion. Il y a une musique inquiétante. Il y a des images de reconstitution, notamment dans l'avion, au moment de la panique général, des témoignages déchirants des proches des victimes qui attendent des réponses. Et...
En fait, c'est construit comme une fiction dans ce que vous dites.
Oui, parce qu'en fait, comme l'avion n'a jamais été retrouvé, on peut tout imaginer. Du coup, on a envie de percer le mystère et il se trouve que les différentes hypothèses qui sont présentées sur le même plan dans le doc, elles nous donnent l'impression que finalement, c'est à nous de trancher parmi les propositions, c'est à nous de choisir le scénario le plus crédible.
Alors ce fait divers, pas le documentaire mais le fait divers, a tellement fasciné que de nombreux anonymes se sont lancés dans l'enquête sans avoir nécessairement les compétences.
Eh oui, le documentaire il comporte des témoignages des proches des victimes mais aussi de civils comme vous et moi, c'est-à-dire pas du tout experts en aéronautique. Ces civils ils se sont pris de passion pour cette affaire et de leur côté ils ont cherché à percer ce mystère, c'est-à-dire en cherchant des débris de chez eux via leur ordinateur avec des images satellitaires. Et en faisant parler tous ces gens, le doc il nous donne l'impression, à nous, spectateurs, qu'on peut faire la même chose, qu'on peut participer à l'enquête. Et c'est un peu construit comme un jeu de piste.
Alors, on va entendre un extrait, un exemple. On va écouter le moment où Cindy, c'est une photographe de Floride, anonyme si j'ose dire, émue par le drame, se met à la recherche des débris d'avion depuis son ordi, grâce aux images satellites, en pleine mer de Chine. Et là, soudain, miracle.
J'ai vu quelque chose de blanc. J'ai récupéré les schémas d'un Boeing 777 sur Internet. Et j'ai ainsi pu identifier ce morceau. C'était le nez. C'est là que je me suis dit, je rêve, il y a un débris, j'ai trouvé l'avion.
Gilles Diars, je rappelle, vous êtes expert aéronautique. Est-ce que vous avez trouvé cette séquence convaincante? Est-ce que sur les images, vous avez reconnu, vous aussi, l'avion?
Alors, pas du tout. En fait, c'est pas du tout convaincant. Déjà, quand on regarde la qualité des images, elle est clairement insuffisante pour pouvoir déterminer s'il s'agit de débris, d'écume sur l'eau, de nuages, ou même encore de reflets du soleil sur l'eau. La qualité est vraiment mauvaise. Quand on voit également certaines associations qui sont faites entre certaines images et des plans d'un Boeing 777 vu de face, c'est-à-dire comment on peut imaginer voir depuis une image prise d'un satellite, depuis l'espace, donc à la verticale, une partie d'un avion vu de face. Donc on a des gens, je ne doute absolument pas de leur bonne foi, mais ces images ne permettent absolument pas d'en tirer ce genre d'enseignement, mais absolument pas.
L'enquête officielle conclut que l'avion ne s'est pas écrasé sur la trajectoire prévue, mais qu'il a soudain bifurqué vers le sud pour aller s'abîmer au large de l'Australie. Et ce qui nourrit les spéculations, c'est que l'avion n'a jamais été retrouvé. Comment est-il possible qu'une recherche de plusieurs années avec 40 navires, 30 avions déployés, n'a-t-elle pu donner lieu à aucun résultat ? Gilles Diars, comment vous l'expliquez ?
Alors, tout simplement parce que quand on se penche sur ces données satellites, il faut vraiment arriver à les comprendre. Certes, c'est très complexe. Et on a en fait une idée de la trajectoire de l'avion. On sait que lors de ce dernier échange avec le satellite, ce qu'on va appeler le septième arc, l'avion il est sur un arc, mais un arc qui est immense. Donc on sait qu'il est sur cette ligne qui fait plusieurs milliers de kilomètres de long. Le problème, c'est que il faut arriver à affiner cette position, et cette position, ce n'est pas l'endroit où a fini l'avion. C'est l'endroit où il a émis son dernier message vers le satellite. Mais ensuite, combien de temps il a volé ? Est-ce qu'il a plané ? Là, c'est difficile à dire. Donc, on a une zone de recherche qui fait plusieurs millions de kilomètres carrés et qui est inexploitable. Donc, les enquêteurs, ils ont dû faire l'hypothèse qu'à la fin, personne n'a touché aux commandes, que l'avion, il était en panne sèche et qu'il a plané tout seul, sans qu'on touche aux commandes. Et là, on a une zone qui permet, on va dire, d'aller chercher, et qui est quand même déjà très grande. Mais si cette hypothèse n'est pas bonne, on ne trouvera pas l'avion dans cette zone. Donc, c'est très complexe à expliquer. Et les gens, certaines personnes, ne croient pas ces données satellites.
Très bien, j'ai compris ça. Il y a trois hypothèses qui sont émises dans ce documentaire. La Russie, le pilote, les États-Unis. Je fais très très simple. Héloïse va nous les résumer. Gilles Diars, on aimerait avoir votre expertise. Culture Média continue sur Europe 1. Europe 1.
Et sur Europe 1, vous écoutez Culture Média avec Philippe Bordel.
On parle de ce doc sur Netflix, MH370, l'avion disparu, déjà 60 millions d'heures de visionnage dans le monde, mais grosse polémique, documentaire qui déploie trois hypothèses dans cet ordre. Est-ce que le responsable, c'est le pilote ? Est-ce que c'est la Russie ? Est-ce que ce sont les États-Unis ? Héloïse Goy, on va les prendre dans l'ordre, les hypothèses, rapidement, malheureusement. Première hypothèse, l'avion aurait été abattu par les USA. C'est là où on voit que c'est Netflix, puisque l'hypothèse la plus probable, ils la mettent à la fin, alors que normalement, on commence par celle du début. Là, c'est à la fin, pour dire que c'est aussi construit. Sur le papier, ça fait un peu théorie du complot, mais c'est une hypothèse défendue par une journaliste française, du très sérieux journal Le Monde, et c'est celle qui est mise en valeur par le documentaire.
Oui, c'est Florence de Changy qui défend cette hypothèse. Alors, selon elle, les États-Unis ont appris à la dernière minute que cet avion, le MH370, transportait une cargaison secrète, peut-être du matériel électronique classé secret défense. Et pour empêcher la livraison de cette cargaison vers la Chine, eh bien, les Américains auraient utilisé des AWACS, vous savez, ces avions radars de l'OTAN qui surveillent l'espace aérien.
Pour une grosse tourelle circulaire au-dessus d'eux.
Exactement. Eh bien, ces AWACS auraient, selon Florence de Changy, brouillé le signal du MH370 et l'auraient même abattu en mer de Chine. Ça, c'est la première hypothèse.
Gilles Diars, vous êtes expert en aéronautique, vous avez travaillé pour l'armée de l'air comme contrôleur aérien. Techniquement, est-ce que deux AWACS peuvent faire disparaître ainsi un avion sans laisser de traces, Gilles Diars ?
Alors, techniquement, non. Non, ce que explique Florence de Changy, déjà, il y a plein d'incohérences, moi, qui me sautent aux yeux en tant que professionnel. La première incohérence, c'est si on veut intercepter un Boeing 777 avec un AWACS. La première incompatibilité, c'est que la vitesse de croisière d'un Boeing 777 est déjà supérieure à la vitesse maximale d'un AWACS. Ça veut dire que si on arrive à mettre un AWACS à côté du MH370, quand il va arriver à la frontière chinoise une heure plus tard, ça fait déjà un bail que les AWACS sont derrière complètement largués. Ça, c'est la première incohérence. Ensuite, le brouillage qui est supposé, qui vient soi-disant d'une source qui serait un ancien de l'US Air Force. Il y a une confusion avec un équipement de guerre électronique qui a été installé sur les AWACS américains, mais aussi français. Or, quand on dit le mot guerre électronique, beaucoup pensent, et même des anciens des militaires d'active, qu'il s'agit de brouillage. En fait, pas du tout. C'est un système qui permet de localiser et d'identifier des émetteurs radars pour savoir de quel avion ça peut provenir. Ensuite, ce qu'explique Florence de Changy concernant les AWACS aussi, c'est qu'ils seraient entrés en contact avec le MH370 pour lui dire de se dérouter sur un terrain. Et là, j'aimerais bien qu'elle m'explique, avec du brouillage radio, comment on peut arriver à contacter un avion. C'est absolument impossible.
Ouais, j'ai compris. Héloïse Goy, Florence de Changy est journaliste au Monde, journal de référence qu'on ne peut pas soupçonner d'être complotiste. Elle a enquêté 9 ans sur le sujet. Et donc, rien de ce qu'elle avance ne serait crédible.
Alors, je poserais plutôt la question à l'invité, expert en aéronautique, mais c'est vrai que dans le documentaire, tout ce qu'elle avance paraît très crédible pour nous qui n'y connaissons rien.
Alors, deuxième hypothèse, Héloïse, défendue par le journaliste américain Jeff Wise, l'hypothèse d'une responsabilité russe.
Alors, il dit que l'avion aurait été détourné par trois Russes qui étaient à bord et qui seraient parvenus à faire disparaître l'avion des radars avant d'en prendre le contrôle par ordinateur. Ces Russes, toujours selon cette théorie, à la botte du gouvernement de Poutine, aurait crashé l'avion dans une zone déserte du Kazakhstan, peut-être pour détourner l'attention du monde entier à un moment où la Russie envahissait la Crimée, on est en 2014.
Ah, je me tourne vers Gilles Diars, un coup des méchants Russes, c'est presque trop beau pour être vrai, qu'en pensez-vous ?
Alors, soupçonner qu'il y avait des espions russes parce qu'il y avait trois passagers russes à bord, c'est quand même bien maigre. D'ailleurs, il serait devenu quoi cet avion ensuite ? Là-dessus, Jeff Weiss ne nous apporte rien du tout. Mais moi, c'est surtout l'aspect technique qui m'interpelle et sur lequel je veux vraiment rester.
Allez-y.
Ce qu'il sous-entend dans son discours, c'est que cet espion russe serait allé dans la soute électronique de l'avion, serait branché avec un ordinateur et aurait pris complètement le contrôle de l'avion depuis la soute électronique.
Est-ce que c'est plausible ? Les images sont saisissantes. Est-ce que c'est plausible ?
C'est techniquement impossible. Et ce qui est dit également, c'est qu'ils ont fait croire aux satellites depuis l'avion que l'avion serait parti vers le sud, alors qu'en fait, il serait allé vers le nord, vers le Kazakhstan. Là encore, c'est totalement impossible. On ne peut pas modifier ces paramètres qui sont pris dans des calculateurs de l'avion, qui sont ensuite traités par le système satellite et qui sont ensuite envoyés au satellite. Donc, on ne peut pas manipuler ces données-là depuis l'avion. C'est totalement impossible.
Héloïse Gouaille, il y a une troisième hypothèse qui est présentée dans le premier épisode et ensuite, pour être ensuite écartée, celle de la responsabilité possible du pilote.
Oui, il s'appelait Zahari Ahmad Shah, le pilote du MH370, aurait pu volontairement détourner l'avion de sa trajectoire initiale, c'est-à-dire qu'il aurait fait demi-tour afin de crasher l'appareil dans le sud de l'océan Indien, alors soit pour se suicider, soit pour revendiquer un acte politique dont on ignore la nature.
Et là, vous dites, Gilles Diars, que la responsabilité du pilote a été écartée par l'enquête officielle.
Alors, elle n'a pas été totalement écartée. Ce qu'ils disent dans le dernier rapport que l'on a, c'est qu'ils n'ont trouvé aucune preuve qui permette d'attester de la culpabilité de quiconque à bord de l'avion. C'est clairement ce qui est dit. Maintenant, pour moi, la conclusion de mon enquête, c'est qu'il s'agit d'un détournement depuis le cockpit. Pourquoi ? Parce que tous les dysfonctionnements que l'on observe s'expliquent depuis le cockpit. Mmh. Le transpondeur qui permet de voir l'avion sur les radars qui a été coupé. Ensuite, on n'a aucun contact radio avec cet avion pendant tout le reste du vol, ce qui sous-entend que les trois radios de l'avion ne marchent plus. C'est techniquement, j'ai pas réussi à expliquer qu'on puisse perdre les trois radios dans cet avion simultanément. Ensuite, la panne de l'ACARS, qui est un système qui envoie la position de l'avion à la compagnie aérienne toutes les 30 minutes. Quand le système satellite se reconnecte, on n'a plus ce système qui fonctionne, ce qui là encore sous-entend un acte manuel à l'intérieur de l'avion. Un avion qui change de trajectoire, qui fait demi-tour. Un avion, ça ne change pas de trajectoire tout seul. Il y a quelqu'un qui est aux commandes, qui pilote cet avion. Pour moi, ça, c'est une évidence. Et en plus, avec tous ces systèmes qui ont été coupés, on a quelqu'un qui connaît très bien l'avion. Donc, le plus probable est forcément un des pilotes. Ouais. Maintenant, le pourquoi, il est difficile à dire. Et pour moi, la réponse, elle est au niveau de la police malaisienne. C'est à la police malaisienne de pouvoir répondre à ça.
Je reviens à ce documentaire de Netflix, Héloïse Gouaille. Qui est Louise Malkinson qui a signé le doc et qu'a-t-elle répondu aux critiques ? A-t-elle répondu d'ailleurs ?
Oui, elle a répondu au Guardian. Louise Malkinson, c'est une réalisatrice britannique. Et face à cette polémique qui a pris une vraie ampleur dans le monde entier, elle a dit donc au Guardian, qui ne la présente pas comme une journaliste, hein, je le précise, elle dit qu'elle n'a pas voulu donner du crédit aux théories complotistes. Alors, elle reconnaît toutefois que certaines des théories présentées dans son doc sont farfelues, mais elle se défend d'avoir fait intervenir des interlocuteurs peu fiables. Elle dit, je cite, « Ce sont des gens qui ont été impliqués dans l'histoire depuis le tout début. Ils ont fait un gigantesque travail de recherche, même si certains ne sont pas d'accord avec leurs conclusions. Ces intervenants posent des questions qui n'ont pas forcément de réponse aujourd'hui. » Fin de citation.
Dernière question pour vous, Gilles Diars, très rapidement. Est-ce que, selon vous, un jour, on aura la solution définitive au mystère du MH370 ?
Alors on l'espère, actuellement il y a une nouvelle étude qui est sortie par deux Français, qui est pourtant très peu connue. C'est Patrick Blély, un ancien commandant de bord à la retraite, et Jean-Luc Marchand, qui est spécialisé dans les données satellites et radars. Ils ont fait une étude qui a été publiée en février, qui a été transmise, on l'a poussée justement au BEA français, qui est l'organisme qui s'occupe des enquêtes sur les accidents aériens. Et le BEA l'a trouvée suffisamment intéressante pour la transmettre à leurs homologues australiens, parce qu'il y a une zone qui est définie, une zone de recherche, et on espère que cette zone de recherche soit étudié lors de la prochaine phase de recherche qui pourrait commencer fin d'année. On n'a pas encore de confirmation, mais on espère que ça puisse faire avancer les choses.
On l'espère avec vous. Merci beaucoup Gilles Dias. Je rappelle que vous êtes expert aéronautique, vous avez été contrôleur aérien pour le ministère de la Défense. Et je remercie Aloïse Goua, notre spécialiste série à Europe 1, qu'on retrouve tout à l'heure pour votre indispensable du jour.
À tout à l'heure. Europe 1. Et votre matinée sur Europe 1 tous les jours se déroule avec Culture Média et Philippe Vandel.
Dans un instant, on reçoit Guy Lagage pour une nouvelle série documentaire. Ça s'appelle Congo, menace sur la forêt tropicale. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici la mécanique médiatique. Et ce matin, vous avez choisi de vous arrêter sur la façon dont les leaders de la France insoumise traite les journalistes, car vous êtes tombé sur un contraste qui vous a beaucoup amusé.
Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre le numéro très rodé de Jean-Luc Mélenchon avec la presse et une déclaration plutôt inattendue signée Mathilde Panot, je vous raconte. Alors, le numéro de Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le connaît, il consiste à prendre les journalistes pour des poires, à les humilier et à les rabaisser chaque fois qu'une occasion lui est offerte. Avant-hier, par exemple, le ténor de la France Insoumise était l'invité du grand jury sur LCI et il n'a donc pas manqué de redire aux journalistes qui avaient la lourde charge de l'interroger tout le bien qu'ils pensent d'eux.
Vous empêchez l'expression démocratique.
Il les a traités d'ennemis de la démocratie, mais aussi de suppôts du pouvoir.
Vous êtes tous des valets du grand capital, vos entreprises appartiennent à des milliardaires et vous en êtes des perroquets.
D'oiseaux rares et même d'ignares congénitaux qui n'ont pas la plus petite idée de ce à quoi ressemble la violence et le danger.
Vous vous moquez des gens quand vous savez pas ce qu'est un mouvement violent. Vous en avez jamais vu.
Voilà, alors balancez ça en même où notre confrère Olivier Dubois vient tout juste d'être libéré après avoir passé la bagatelle de 2 ans retenu en otage précisément pour avoir bravé le danger et voulu dénoncer la violence d'un groupe terroriste au Mali. Fallait oser, car oui, on a beau y être habitué, les dérapages permanents de Jean-Luc Mélenchon à l'égard des journalistes, au bout d'un moment, ça vous tape sur le système.
Calmez-vous un peu.
Et personnellement, l'entendre parler comme Gérald Darmanin et tenir des propos misogynes, je ne m'y résous pas.
Voilà que j'entends 3 perruches sur Canal+, et leur métronome qui s'en prenait à moi.
J'ai beau savoir que c'est une ruse, une petite stratégie manœuvrière qui vise à agiter le populisme dans la grande marmite du tous pourri, j'en ai ras la carte de presse d'entendre Mélenchon prendre les journalistes pour des paillassons et s'adresser à eux comme à des moins que rien. Ça dure depuis des lustres, vous vous souvenez tous ici probablement comment il y a 12 ans déjà il s'était adressé à un malheureux étudiant en journalisme qui avait tenté de l'interroger.
Non, c'est fini, terminé. Ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri.
Bref, c'est insupportable, mais la lumière, mes enfants, est peut-être au bout du tunnel. Car figurez-vous qu'hier après-midi, en pleine Assemblée nationale et au moment de défendre la motion de censure contre le gouvernement, j'ai entendu une autre insoumise. Mathilde Panot, la présidente du groupe parlementaire, montait à la tribune et citait quoi ? Vous n'allez pas me croire, des journaux.
Le journal conservateur Der Tagesspiegel titre « Macron n'est pas un réformateur mais un démolisseur ».
Oui, la protégée de Jean-Luc Mélenchon a évoqué le travail des journalistes pour condamner la politique d'Emmanuel Macron.
Le journal italien La Stampa évoque un geste trop irréfléchi qui peut déborder l'Élysée.
Et elle n'a pas cité qu'un ou 2 journaux. Non, elle ne s'est même pas contentée de renvoyer à des journaux de gauche.
Le journal libéral The Economist. On voit mal du positif émerger de cette pagaille.
Elle a cité au moins 6 titres, au point que j'ai eu l'impression d'entendre non plus un discours politique, mais carrément une revue de presse internationale.
Pour El País, ce 49-3 va empoisonner la vie politique. Le New York Times évoque une méthode qui traduit une forme de mépris. Un journal danois évoque une bombe nucléaire déclenchée dans un chaos total.
Eh oui, Philippe, à la France insoumise, la détestation des journalistes est donc à géométrie variable. Tandis que Jean-Luc Mélenchon les engueule à la télé, Mathilde Panot les cite à l'Assemblée. Nous vivons une époque cohérente.
Merci beaucoup, Bruno Donnet. À demain.
À demain. Europe 1.
Et c'est Culture Média que vous écoutez là où vous voulez, avec Philippe Vandel et son invité.
Évidemment, bonjour Guy Lagache.
Bonjour Philippe.
Journaliste, une sacrée carrière quand même. Avant de vous recevoir, je faisais le décompte, 16 ans passés sur M6. Vous avez créé là-bas le premier magazine d'investigation d'M6, Secret d'actualité. Puis vous avez présenté Capital, vous étiez le rédac chef. Vous partez ensuite dans le groupe Canal+, vous y restez 6 ans avant d'être nommé directeur des antennes et de la stratégie de Radio France. Ça n'a pas duré longtemps. Vous revenez à la télé via des entretiens sur LCP, la chaîne parlementaire, où Vous réalisez ce documentaire très remarqué en immersion avec Emmanuel Macron au moment où se déclenche la guerre en Ukraine. 6 mois de tournage. Votre actualité, c'est ce documentaire « Congo, menace sur la forêt tropicale ». Ça passe ce soir à 20h45, c'est important de le dire, sur Ushuaïa TV, dans une nouvelle collection Terre d'urgence, une collection imaginée par vous. Quel est l'angle au moment où il y a de plus en plus d'émissions qui se lancent sur ce créneau?
L'angle, c'est très simple. C'est que il y a des années, moi, j'avais raconté l'impact de l'activité humaine sur la planète et comment, en gros, on contribue par notre style de vie, consommation, production, distribution, à réchauffer la planète. C'était capital Terre. Mmh. Et des années plus tard, il me semble que l'urgence, elle est ailleurs. Les solutions, on ne les a pas encore. En revanche, on voit bien, le climat s'impose à nous. Nous, ici, en France, problématique de l'eau, sécheresse, montée des océans, incendie. La question, c'est comment on s'adapte. Or, dans le monde, il y a des gens qui vivent aux avant-postes de l'impact climatique, des extrêmes climatiques. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment ces communautés humaines s'adaptent au quotidien face à la montée des océans ici, à la déforestation là, à la fonte des glaces. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre avec un climat qui se dérègle et qui se déchaîne?
Alors justement, quand on parle de déforestation, on pense en premier lieu à la forêt amazonienne et beaucoup moins de la forêt tropicale du Congo, qui ne fait pas les gros titres et qui est pourtant le deuxième poumon de la planète. 314 millions d'hectares et certains en disparition. Pourquoi on en parle moins?
Écoutez, ça, c'est difficile de répondre à cette question.
Parce que c'est moins grave ou parce que c'est comme ça, il y a un tropisme journalistique et que c'est plus facile de taper sur Bolsonaro?
Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que d'abord, le Congo, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est très complexe, qui est à la fois très riche et très pauvre. Très riche parce qu'il recèle d'un nombre absolument incalculable de ressources naturelles, les minerais, le pétrole, l'argent, des éléments absolument essentiels pour faire fonctionner nos appareils électroniques, et la forêt. Or, par ailleurs, c'est un pays d'une extrême pauvreté. Et effectivement, ce qu'on sait peu, c'est que la forêt est en train de vivre une décimation absolument spectaculaire. Sachez que tous les ans, plus d'un million d'hectares de forêt disparaissent au Congo.
1 250 000 hectares, ce qui est phénoménal. Ouais. J'ai repassé la bande pour être... Enfin, c'est pas une bande, mais j'ai repassé le fichier pour être certain que ce soit le bon chiffre.
Mais vous savez, Philippe, moi j'étais allé au Kivu, puisque c'est une région très particulière, juste à côté du Rwanda, pour enquêter à l'époque avec mes camarades de Capital sur les mines, les minerais qu'on utilise pour nos téléphones portables. Et j'y suis retourné donc 10 ans après, c'est-à-dire là, il y a quelques semaines. Et j'ai été frappé parce qu'il y a des choses que je n'ai pas reconnues. C'est-à-dire que j'ai vu des forêts qui avaient disparu réellement.
Les forêts sont devenues des terrains vagues.
Absolument.
C'est une sorte de steppe.
Absolument.
Une sorte de steppe. Donc dedans, je passe évidemment, mais il n'y a plus de gorilles, il n'y a plus de grands singes, il y a beaucoup d'animaux qui ne peuvent plus vivre.
Ça a un impact absolument considérable sur la biodiversité.
Alors, c'est assez extraordinaire, des images dingues. Vous avez rejoint une communauté isolée, des pygmées qui vivent à 2000 mètres d'altitude. Il y a 17 familles. Il ne faut plus dire pygmées, il faut dire comment?
Batois.
Oui,
enfin, Batois,
j'aime beaucoup ce mot.
C'est une communauté au sein de la communauté des pygmées qui est une communauté qui est discriminée, qui est opprimée là où ces peuples se trouvent, et sont des peuples qui vivent de la forêt. Mmh. Sans la forêt, ils ne peuvent pas vivre.
Vous partez en forêt avec l'un de ses membres, des Batois, ces arbres, et c'est un peu comme une pharmacie à ciel ouvert. Il y a un arbre, par exemple, qui peut faire passer le mal de tête.
Ça, c'est un médicament contre les maux de tête.
C'est comme de l'aspirine?
Oui. Il suffit de piler l'écorce dans un mortier. Ensuite, tu presses le jus. Et directement dans les narines, devant le soleil. Après, tu te couches dans sa direction. Tu vas éternuer, comme ça. Et après, ton mal de tête diminue.
C'est absolument magnifique et savoureux. Ça marche contre le mal de tête? Ça a marché sur vous?
Absolument.
Il reste combien d'arbres comme celui-ci?
Un seul. Un seul. Dans cette forêt-là, il en reste un seul. Et le problème, c'est que Maïcha, qui est donc la personne qu'on suivait, c'est un peu le médecin du village. Ouais. Donc, c'est lui qui va dans la...
Pardon. Je vous interromps parce que je voudrais qu'on raconte pourquoi ces arbres sont déforestés, qu'est-ce qu'ils en font. Parce que c'est une sorte de le carburant dont le mot m'échappe à l'instant.
Le makala.
Le makala. Racontez ce qu'est le makala.
En gros, le makala, c'est en swahili, ça veut dire le charbon de bois. Et ce qui se passe, en fait, tout ça est un problème qu'on connaît très bien. Et nous, c'est l'énergie. Et en Afrique, non, pardon, en République démocratique du Congo, 95% de la population n'a pas accès à l'électricité. Donc, il n'y a pas d'énergie. Sans énergie, on ne peut pas vivre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des trafiquants de bois qui coupent des forêts entières pour carboniser donc ce bois qui est très souvent très précieux et le transformer en charbon de bois et ainsi permettre aux populations de pouvoir chauffer leurs aliments, avoir de l'eau chaude, bref, de l'énergie nécessaire à la vie quotidienne, si vous voulez.
Vendu dans des sacs, image dingue, c'est l'autoroute du Nord Kivu. Il y a des sacs de makala qui sont chargés sur des camions, des hauteurs impensables en Europe, sur des motos.
Mobilettes.
La mobilette, elle peut emporter une dizaine de sacs de 30 kilos. Ça lui fait 2 mètres d'envergure de chaque côté. C'est complètement saisissant. Et vous avez rencontré un caïd qui est à la tête d'une petite équipe. Il fait abattre et brûler des arbres dans la forêt. Ça lui rapporte 500 euros par mois. On va dire c'est peu. Non, c'est 10 fois le salaire moyen au Congo.
Absolument.
Comment avez-vous réussi à le convaincre de vous parler? Il a l'air tranquille, ou lui?
Bah, c'était compliqué. Ça fait partie des...
Ça mélange des deux. Mais il n'a pas l'impression de faire quelque chose de mal. C'est ça qui est... Ça... Ouais, il sait que c'est illégal, non, mais il ne pense pas faire le mal.
Il faut savoir qu'on est dans un des pays les plus pauvres de la planète, un des pays les plus chauds de la planète, parce qu'il y a une guerre civile, que cet individu fait partie des rebelles, des groupes armés. Vous savez, c'est vraiment Joseph Conrad. Hein, c'est au cœur des ténèbres. Et en gros, il a la possibilité de faire ça parce qu'il est protégé par des groupes armés qui se battent contre l'armée congolaise. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tout ça, toute l'idée, c'est d'avoir une forme de prédation sur les ressources naturelles. Et la forêt en fait partie. Et donc, c'est en parlementant des heures, des jours durant avec lui et ses chefs de guerre qu'on a réussi avec Guillaume Viard à aller... in fine, pouvoir le suivre dans son activité.
Mais là où c'est vraiment incroyable, c'est qu'on a l'impression qu'il vous parle comme un ami, quoi. Tout d'un coup, il est en confiance. C'est
ça,
pas
c'est
la
le
moindre...
temps long qui permet ça.
Exactement.
Ça, je me permets de le dire.
C'est ce que j'allais dire, et justement, parce que le temps long, le temps file, c'est pas la moindre des qualités de ce reportage. Il y a mille choses que je voulais évoquer. Je voulais parler aussi des gardes forestiers. Je voulais aussi parler du retour des hippopotames. Je voulais parler d'une solution où on arrive à se chauffer avec de l'argile. J'y crois même pas, mais évidemment, ça marche, puisque sinon, ça serait pas dans le sujet. Je vous remercie, Guy Lagage. Je rappelle ce doc Congo. Menace sur la forêt tropicale, c'est à voir ce soir à 20h45, pas 21h, sur Ushuaïa TV et dans une nouvelle collection qui s'appelle Terre d'urgence. Merci d'avoir été avec nous.
Merci infiniment.
En direct sur Europe 1. Nous, dans un instant, on se retrouve évidemment. Annoncer la page pour demain que j'avais. D'après les infos de 10h, notre invité, c'est Rebecca Marder. On parle de ce thriller politique qui sort demain en salle de Grandes Espérances. C'est l'actrice qui monte dans le cinéma français, comme on dit, Rebecca Marder.
Et puis les indispensables avec Héloïse Gua qui nous présentera une série italienne autour d'une avocate qui a changé l'histoire des droits des femmes. Et Frédéric Le Tournier, elle nous parlera art et littérature avec la publication des lettres et des poèmes du peintre Francis Picabia.
Et Jean-Luc Lemoine sera avec nous pour sa session de rattrapage. À tout de suite.